Le podcast La Florida vous est présenté par lotoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodgings et Caméléon Productions.
La Florida 2.0.
Big Daddy Bolduc, président de President of l'association Hollywood Beach Motel Zoner Association.
Oh, Léo L'Espérance, propriétaire de Motel Zoner.
Ton podcast floridien.
Bonjour tout le monde, Martin Clavet-Bédard pour La Florida, le podcast, en compagnie de Carl Sanson. Bonjour Carl.
Salut.
Et notre ami François Forget de Caméléon Productions derrière toute cette initiative du podcast qui est La Florida, le podcast, ou Snowbird 2.0 pour former le Snowbird de demain.
Au froid.
Au froid.
François au froid.
François au froid, oui. À Montréal, puis nous en Floride avec un automne qui a été correct. Puis là, évidemment que le podcast présentement que l'on enregistre à la fin du mois d'octobre est diffusé dans la semaine du 16 septembre. Donc, on est presque à la période des fêtes et on vient de traverser l'extraordinaire période du
16 décembre.
16 décembre et puis ouais. On a passé l'extraordinaire période du Thanksgiving.
Tu voulais faire un back to the future.
Un retour vers l'arrière. Mais non, c'est ça. Alors, la Floride en décembre, on est rendu là, mon cher ami, et puis on a eu l'occasion de discuter de politique. On a parlé des meilleurs burgers.
Pas trop de politique. Si vous voulez écouter de la politique, c'est Radio Pirate. Les gens veulent me voir, c'est radiopirate.com.
Exact. On a parlé un peu de politique. On a parlé des meilleurs burgers un peu haut de gamme.
Et tu possiblement, nous as mis... by the way, possiblement,
oui.
Que quand on est diffusé le 16 décembre,
oui.
Ben on a, en tout cas, dans mon cas, moi, je vais être gagnant. Je l'espère, avoir été gagnant.
Hey, c'est très particulier. J'ai fait de la radio pendant 15 ans de ma vie. En temps réel, j'ai pas fait de podcast où est-ce qu'on enregistre une période comme la fin du mois d'octobre pour quelque chose de diffusé le 16 décembre.
Surtout, Martin, que c'est un point marquant en ce moment. Là. Je veux dire, on dirait n'importe quoi, là, l'Amérique shake en ce moment, là, c'est qui va gagner.
Ouais. Ben, juste pour contextualiser encore plus, là, OK? On a au Madison Square Garden, dans les dernières heures, si on se fie à la période d'enregistrement, on est le 28 octobre là, pour l'enregistrement.
Exact.
Et puis, au Madison Square Garden, il y avait 20 000 personnes dans l'amphithéâtre pour Donald Trump. Et il y avait environ 70 000 personnes qui attendaient à l'extérieur pour pouvoir rentrer dans le Madison Square Garden.
Qui ont resté là tout le long.
Oui.
Pendant les 3 heures qu'ils étaient dedans, ils ont resté là dehors.
OK. Puis, ça là, c'est donc le 27 octobre. Rappelons-nous que 2 jours avant, vendredi soir, sauf erreur, c'était le podcast de Joe Rogan qui aurait attiré, en date des chiffres du 28 octobre, quelque chose comme 35 millions de visionnements. Mais on estime le nombre de visionnements total aux alentours de 90 millions.
Ouais.
Mais pas 90 millions de personnes qui l'ont écouté pendant 3 heures. 90 millions de personnes qui auraient écouté ou regardé environ 60 % du contenu de 3 heures.
Qui est extraordinaire. Il y a aucune place. C'est un peu ça, les podcasts qu'on fait avec vous autres, les podcasts de la Floride. C'est que c'est plus... C'est plus les réseaux réguliers, c'est plus du Radio-Canada, c'est plus du TVA avec des partis pris et tout ça. La nouvelle plateforme pour communiquer en temps réel, c'est des podcasts. Moi, j'en fais avec Jeff depuis 6 ans. Jeff Fillion, les gens qui se demandent
c'est qui. Mais Jeff en fait depuis 2006.
C'est ça que je vais en venir. Ouais. C'est que Jeff Fillion est un visionnaire, il a commencé ça lui en 2006. Les gens ne savaient même pas c'était quoi le mot podcast.
Non.
Et... qui est un peu extraordinaire. Les gens ne le connaissent pas. Moi, je vous souhaite de le connaître et pas avoir, d'après les réseaux standards, t'appelles ça en anglais le mainstream.
Ouais.
Les mainstreams sont très envieux.
Oui.
C'est pour ça qu'attaque Joe Rogan.
Oui.
Oubliez l'histoire politique là, de Donald Trump et tout ça. Là, Joe Rogan est la plateforme numéro un depuis plusieurs années.
Joe Rogan a un revenu annuel de 100 millions.
Non, c'est un contrat qu'il a signé de 100 millions, pas annuellement.
Okay.
C'est un contrat qu'il a signé de 3 ans de 100 millions avec Spotify.
Ce que j'avais
entendu. Qu'il a renouvelé en plus. Donc, il y a eu un premier 3 ans, il a renouvelé. Premier coup qu'il y a eu ça, tout le monde a fait comme qu'est-ce que ça a fait, point de vue podcast, que les gens comprennent.
Okay.
C'est que il y a Apple Podcasts, il y a Podalex, il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que Spotify ont payé un gros prix pour avoir Joe Rogan qui était numéro 1. mais que les autres podcasters, comme nous, finalement, c'est qu'on s'abonne à Spotify, justement, notre plateforme qui devient la plateforme de diffusion numéro un à l'échelle de la planète.
Ouais.
C'est ça que ça fait. Donc, Joe Rogan a amené des milliers, des milliers, des milliers de podcasters sur leur plateforme numéro un pour se démarquer des autres.
Ouais.
Fait que c'était, comme la première année, c'est un genre de loss leader qu'on appelle.
Ouais.
Mais ça n'a pas viré en loss leader. Les gars avaient bien calculé leur affaire tellement bien qu'ils ont renouvelé un deuxième contrat pour un 3 ans pour au-dessus de 100 millions. Mm-hmm. Au début, je pense que c'était 30-40 millions son premier contrat. Tout le monde a fait « wow! » Et le pire, c'est que le reach moyen que Joe Rogan a,
normalement,
pour vous donner une idée, mm-hmm, par épisode, c'est 15 millions.
OK.
OK, c'est son average, sa moyenne. Je vais vous donner un exemple. Fox News aux États-Unis est le réseau numéro un.
Oui.
OK? Là, il n'y a pas de parti pris, là, c'est des faits que je donne.
Oui.
On parle de 7,8 à 8 millions de téléspectateurs aux États-Unis, numéro un.
Oui.
On parle de CBS, mettons. Mettons 60 Minutes, qui est une émission où les nouvelles, c'est 3 millions, 4 millions.
Aïe, aïe, à travers les États-Unis.
CNN est en bas de 1 million. Ils ont peut-être un ou deux épisodes, 1,1, 1,2. CNN ne tire plus du tout. CNN est après changé complètement leur fusil d'épaule. Ils ont mis beaucoup de monde à la porte parce que CNN ne vend plus de publicité. Tu vends ta publicité avec le nombre de gens qui te regardent.
Mais il y a une baisse générale aussi du média traditionnel.
C'est là que je vais en venir. Exact. C'est que le podcast est après tuer le média général parce que les gens sont après se rendre compte, surtout la nouvelle génération, ils n'écoutent plus les nouvelles. Les gens de 30 et 35 ans et moins, tu as des enfants, j'ai des enfants.
Absolument.
Ils n'écoutent plus la télé conventionnelle. Non. Ils n'écoutent plus les nouvelles de 6 heures. Ils n'écoutent pas, mettons, un LCN. Eux autres, c'est pas là. Eux autres, c'est X d'Elon Musk. C'est Instagram. Ils vont checker. Mes gars, Snapchat, Facebook. Ils n'écoutent pas. Eux autres, Facebook, c'est rendu vieux. C'est passé.
C'est les oldies.
Facebook, c'est plus les boomers à cette heure qui sont restés sur Facebook, mais les jeunes ne sont pas là-dessus.
Mon fils m'a vraiment surpris en me disant, si la nouvelle a à se rendre à moi, elle va se rendre à moi. Quand tu as de l'eau dans un plafond, l'eau se rend à toi, ben, la nouvelle, elle va se rendre à moi. Puis effectivement, il est au courant.
C'est X. La plateforme numéro un mondiale, c'est X. Je veux dire, aussitôt que, exemple, la dernière qu'il y a eu, c'est l'Israël a finalement envoyé des missiles balistiques en Iran. Donc, ils ont riposté finalement à l'Iran une couple de semaines après que les autres les avaient envoyés. Le missile venait de partir, là, puis sur X, on le voyait. On voyait des vidéos, puis on voyait le missile décoller. On est dans le podcast de la Floride.
Ouais.
You see what you get what you see. Je vous l'ai dit, on donne nos opinions sur notre expérience dans le sud de la Floride. Qu'est-ce qui est le fun? C'est quoi qui a changé? Les nouveaux restaurants, les magasins, les tendances. Parce que ça bouge vite. Hein?
Tout le temps.
Moi, je vais vous dire, là. Moi, je suis arrivé ici en 2004, Martin. Et mes enfants ont rentré à l'école à l'élémentaire Downtown Fort Lauderdale.
Okay. Ici.
Une école Montessori. Ah, c'est juste à côté d'ici. C'était à 2 minutes d'ici. Une école Montessori. Vous connaissez les écoles Montessori?
Il y en a au Québec.
Et moi, je suis parti de là de mon expérience avec mes enfants. Mais je venais ici depuis que j'ai 4 ans avec mes parents. Mes parents, ils ont un condo ici à North Miami Beach que tout le monde connaît, qui a un Duffy's là en ce moment. Dans le temps, ça s'appelait un Shooters.
Ouais.
Miami Vice se tournait dans le lac à côté de chez nous avec l'hélicoptère, les affaires, la Ferrari louée chez Prestige Imports.
Oui.
Fait que moi, j'ai commencé ici, j'avais 4 ans. Ma plage était au Lover Beach. Mm-hmm. Fait que j'ai connu ça. Au Lover Beach, aujourd'hui, les Québécois qui le savent, ils le savent. La moitié de la plage, c'est nu.
Oui.
L'autre plage est normale.
Je l'ai su accidentellement.
Bon, bien, c'est ça. Bien, moi, pareil. Je suis arrivé là, un moment donné, j'avais 12 ans, puis ça l'a flippé dans ce temps-là. Il y avait une petite clôture entre les deux. Clôture à neige. Les petites clôtures à neige, bien cheap. Fait que ça fait longtemps que je suis ici, puis j'ai vu le changement. Et quand j'habitais ici avec ma famille en 2004, à temps plein. On n'est pas parti avec l'idée d'être à temps plein. On est venu ici, puis moi et ma femme, on s'est dit, on va essayer de vivre aux États-Unis parce que moi, le défi, j'espère que je vais toucher beaucoup de familles, justement, qui nous écoutent, c'était, moi, j'étais bon en anglais. OK, moi, j'étais bon à école en anglais. J'ai pas besoin d'étudier, j'étais bon. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai appris mon anglais en écoutant la télé anglophone de Québec. Mes parents qui m'amenaient en Floride 2-3 fois par année, mais c'était 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais je n'étais pas dans un milieu anglophone.
Non.
Quand mes enfants sont arrivés ici, « Yes, no toaster, Black & Decker, cheeseburger ». C'est à peu près ça le mot que ça veut dire en anglais. Même s'ils écoutaient télé en anglais chez nous, eux autres parlaient, ils ne l'avaient pas. Non. Fait que moi et ma femme, on a décidé de faire un sacrifice. C'est drôle que je dise ce mot-là, mais c'est ça. On est obligé de faire un sacrifice d'une vie. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est ça pareil. il a fallu que je coupe des affaires professionnellement, un paquet de choses, point de vue carrière, okay. pour venir essayer de venir vivre en Floride et que mes enfants n'aient pas besoin d'apprendre l'anglais dans la culture québécoise des écoles. Vous me comprenez quand je dis oui. ça? Si tu vas à l'école, puis c'est un professeur d'anglais au secondaire, école privée ou publique, et la moitié des professeurs, ce n'est pas des vrais anglophones, puis souvent, deux ans après, ce n'est pas un prof d'anglais, c'est rendu un prof de maths, ou ce n'est pas un prof de maths, c'est un prof de sciences.
Qui a bumpé quelqu'un. Ouais.
Qui a bumpé. Puis souvent, c'était des bouche-trous à l'époque. Mm-hmm. Ce n'était pas des vrais anglophones.
Non. Okay? Ce n'était pas Ernest Craig non, que j'ai non. eu en secondaire 2.
J'en ai eu une ou deux ouais. sur mes années primaire, secondaire, ouais. mais je n'ai pas eu beaucoup. Là,
non, c'est okay? ça.
Okay. On était contents cette année-là que ça arrivait. L'autre année, on était là, oh, comment, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il ne sait pas parler anglais.
Bernard Turcotte. Plus...
Oui, c'est ça. Et puis, Bernard Turcotte qui allait au Larcher deux fois par année.
Ouais.
Ah, et une fois, il nous parle de son voyage à Hawaii quand il avait 18 ans. Ouais. C'est bon, ouais. mais c'est pas un prof d'anglais. Non. Pour avoir du proper English, puis savoir mettre les accents, comment parler, comment placer ça. Rendre un cours intéressant pour des enfants.
Ouais.
Ça, c'est une grosse tâche.
Oh, oui.
Parce que des enfants assis de cul sur un banc d'école pendant 6, 7, 8 heures par jour, moi, ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché dans ma tête. J'étais un gars sportif, actif, tout ça. Donc, si le professeur ne captait pas mon attention au début, ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché. Le concept de l'école ne fonctionnait pas pour un gars comme moi qui avait, on va dire, mais le professeur, hey, coudonc, t'as-tu un verre solitaire dans le cul? T'sais, c'est un peu ça. Mais on était des gens au hockey, au baseball, du ski alpin, du ski, tout ça. Ouais. Moi, je faisais du motocross en plus, je faisais du vélo. Mais on n'arrêtait pas. Ouais. Fait que s'asseoir sur un banc d'école 6 heures par jour, bon, le concept ne fonctionnait pas. Puis là, en plus, une langue que tu n'as pas, ou toi, tu veux l'apprendre, mais le trois quarts de la classe, ça en crise un peu.
Et le prof n'est pas passionné.
Le prof n'est pas passionné. Ouais. Les autres te dérangent. Les autres veulent pas vivre, rien savoir d'anglais.
Ça nivelle par le bas plutôt que niveler par le
oui,
haut.
Oui, puis dans ça. Le temps, là, on écoute Jerry Boulet, puis on met des frocs carottés, puis comprends-tu, des bottes de jobber. C'était ça. C'était
ça. On est des mêmes années, là. Finalement.
Ben oui, on est des mêmes années. T'es un petit peu le vieux que moi, mais on est des mêmes années. Pareil.
Ouais, ouais.
Puis j'ai un frère qui est 2-3 ans plus vieux que moi, puis okay. j'ai des chums d'une braquette. Tu sais, dans 5 ans, une braquette de secondaire, mon nom, on s'est tous connus dans la paroisse.
Ben
là.
Oui.
Ouais, quelque part. Mais le frère parvenait avec l'anglais. Moi, je suis arrivé ici avec mes enfants en 2004 parce qu'on s'était donné, moi et ma femme, le but. Le but, Martin, de qu'ils apprennent l'école, ils apprennent l'anglais dans un milieu anglophone.
Ouais.
Complètement, là, enveloppé d'anglophones. Puis qu'est-ce qui est le fun en Floride? C'est que, écoute, la première année, mon plus vieux, il est en quatrième année au primaire, mon plus jeune est en première année, pour vous donner une idée dans le contexte, là. Puis mon plus vieux dans sa classe, qui était, mettons, 24, il était 18 qui venaient de l'extérieur des États-Unis, puis c'était d'autres nationalités.
C'est ce qui est normal. Pour ouais. ici, pas pour...
Oui, mais c'est ça, mais pas de lui qui arrivait du Québec.
Non.
Donc lui, quand il arrivait, il n'avait de toutes les nationalités, toutes les couleurs, puis il y en a, les 18 étaient comme lui.
Oui.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, c'était un Irakien, ça n'a pas parlé anglais à moitié, deux, trois Français de la France... Avec leur accent, elle adore le français. Oui, ouais, c'est ça. Fait que... ouais, c'est ça. Fait qu'il ne savait pas parler anglais pantoute.
Non.
Fait que mon gars, lui, ça a pris 6 mois, il était parfaitement bilingue.
Mais il n'y a pas de gêne.
Quatrième année. Non, mais c'est ça,
parce
j'ai expliqué
que
à mes gars.
Pour nous, c'est tous une langue seconde.
Les
langue.
Parents ont plus peur de l'adaptation que l'enfant fait l'adaptation.
Parce que l'enfant, c'est pas juste l'école. Il va se faire des amis, il va les voilà. côtoyer après, il va faire du sport collectif.
Fait des gestes, fait des affaires. Puis ça a pris, je vous le dis, ouais. les deux, ça a pris 6 mois, 1 an pour avoir un proper English.
Okay.
Et mon plus vieux a tombé dans anglais fort. Ça s'appelait Westminster, on a fait le même. Il a tombé dans l'anglais fort l'année d'après, en 5e année de suite.
Wow.
Et là, t'es un peu. Ma femme a été voir le professeur, directeur. T'es un peu, là. En 5e année, au primaire, là, vous le mettez dans l'anglais, dans l'équivalent des autres. C'était du 4-32, du 5-32.
Okay,
tu te rappelles de ça?
Oui, absolument.
Il y avait du 22, 30, du 12, 22, 32. Mais là, on lui le mettait dans le 32 déjà. Là, on disait, t'es un peu, on vient d'arriver. Là, tout ouais. ça, elle dit, non, regardez les notes, tout ça, il parle bien, il écrit bien, il est tout ça. Mon gars, effectivement, mon plus vieux, c'est lui, ça a été facile. Puis c'est un gars d'histoire, il apprend bien, il parle bien, proper English, tout ça. Il mémorise facilement. Donc, lui, ça a été facile pour lui. Mais si on n'était pas venu ici, si on n'a pas fait le sacrifice, mes enfants n'auraient jamais fait ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est drôle, parce que quand je parle en anglais, c'est eux autres qui me corrigent.
Ah oui?
Il y a certaines affaires. Ils disent, okay. « Hey, père, quand tu dis ça, telle affaire. » Mais je dis, rappelez-vous, c'était « Yes, no toaster, Black & Decker, cheeseburger. » Ils disent, ben oui, ils rient de ça
autres,
aujourd'hui.
Est-ce qu'ils parlent en anglais? Non.
Toujours.
Toujours en anglais?
Sauf dans la maison.
C'est
ça, c'est un règlement qu'on a eu quand on est ici. Mm. c'est que quand on est arrivé dans la maison, j'ai fait un règlement, même vous êtes avec vos amis, vous devez parler en français. À moins que vos amis anglophones sont là, vous devez parler en français. Si j'avais pas fait ça avec ma femme, ils auraient perdu possiblement 80 % de leur français.
Ah, OK.
Puis mes gars parlent québécois. Ils sont capables de parler québécois. Par contre, quand ils parlent avec quelqu'un ici, jamais personne ne sait qu'ils parlent une autre langue. Okay. Leur anglais est parfait.
Impeccable.
Et c'est comme c'est des Floridiens.
Là. Hey, je veux pas juste un aparté de te dire, mon frère, lui, sa conjointe, elle est de l'Amérique du Sud, yes, colombienne. Fait qu'évidemment que la langue première, c'est l'espagnol.
Oui.
La
grosse
deuxième langue,
c'est colombien.
Ouais, deuxième. Puis là, ça fait pas longtemps qu'elle a appris l'anglais. Je te dirais depuis à peu près 5 ans maintenant. Ils ont des enfants dans la vingtaine maintenant. Bien, évidemment que la langue première, c'est l'espagnol,
oui,
à maison. La deuxième, c'est l'anglais.
Oui.
Puis pour ce qui est du français, disons que la plus vieille parle français, les autres, c'est
pas difficile. Intéressé.
Ben, ouais. Pas intéressé, gêné. Ouais. Au même titre que nous, les Québécois, on est gêné de parler en anglais quand c'est pas l'anglais n'est pas une langue seconde pour la majorité des gens qui sont dans une pièce.
Comme les gars comprennent l'espagnol à 50%.
Exact. Mais sauf que, c'est ça, mais ça fait quand même une culture incroyable.
Ben oui.
Il y a du monde à l'office de Richard Motel qui parle 7 langues.
Ah, ça, c'est capoté, ça. Ça, moi, J'ai des chums en Europe qui sont comme ça. Moi, j'aurais payé de la grosse argent, mettre un chip dans la tête puis être capable de parler 5, 6, 7, 8 langues.
Mais à notre défense, je suis pas sûr qu'ils en écrivent une sous le sens du monde.
Oui, mais ça, c'est pas grave.
Non, ici, c'est pas grave.
Non.
Mais
en autant que tu bargouines, tu es capable de te faire comprendre partout ce que tu voyages. C'est ça qui est important. Puis c'est la même chose pour l'anglais. Fait que je reviens à mes enfants. Ouais. Moi, le but, c'est qu'ils l'apprennent le proper English. Ça veut dire qu'ils l'écrivent bien, ils font pas de fautes, tout est correct.
Ouais.
Ils n'ont pas d'accent, tout ça. On a réussi à atteindre ce niveau-là assez rapidement. Fait que quelqu'un qui a peur d'un fouet puis qui dit « Ah, oh, j'aimerais essayer en Floride, mais mes enfants sont déjà au secondaire ou sont élémentaires, leurs enfants, tout ça. » C'est comme ça. Ils s'adaptent. Les enfants, ça s'adapte facilement. La meilleure affaire que vous pouvez leur donner, c'est justement de les encadrer le mieux possible puis laisser-les aller.
Ouais.
Arrêter des surprotégés. Les parents hélicoptères, ça ne fonctionne pas.
Hein? C'est quoi? J'ai déjà entendu ça, mais je ne me rappelle pas.
Les parents hélicoptères, c'est des parents qui font tout pour les enfants puis ils veulent les protéger dans tout.
OK.
Laissez-la faire. Ouais. Laissez-les s'organiser.
Tu as des organes, organise-toi.
Organise-toi, laisse-les se débrouiller. Même si on est dans la merde un peu, c'est pas grave. Laisse-la faire. Ils vont réussir à se débrouiller. Le survival, à un moment donné, va décoller tout seul. Moi, j'ai envoyé les enfants ici à un camp où c'est qu'il y a eu justement Hélène avec les débordements Asheville en Caroline du Nord.
Oui.
Parce que Asheville, c'est des montagnes. C'est comme je dis pour les gens de Québec. Les gens de Montréal, c'est le nord de Montréal.
Oui.
Puis les gens de Québec, ben c'est Stoneham, Saint-Adolphe en montant, puis tout.
Ouais.
C'est ça, Asheville. Donc, il y a des camps, il y a beaucoup de camps de vacances, parce qu'il fait moins chaud l'été, il y a beaucoup de camps de vacances. Là, il y a deux, trois beaux camps de vacances, camps d'équitation, camps de canot, camps d'un paquet d'affaires. Nous autres, on envoyait nos gars pendant 3 ans consécutifs, 1 mois là-bas l'été.
OK. Se rafraîchir
On allait les porter à l'aéroport Fort Lauderdale, il y a un vol direct de JetBlue ou Allegiant, qui allait direct à Asheville, 199 aller-retour.
OK.
Puis c'était justement pour les camps de vacances. On envoyait nos enfants là, puis ils revenaient après. Puis dans les premières années, là, je veux dire, ils parlaient presque pas anglais.
C'était encore mieux.
Ils sont venus, ils ont fait des chums tabarnouches de partout dans le monde. Ils ont toujours, parce qu'il y a du monde de partout qui y vont, là. Ils ont resté en contact avec eux. Ils ont appris à se débrouiller facilement. Donc, en n'étant pas un parent hélicoptère, nous, on a fait un pack-sac. Il y en a un qui était camp Woodward, qui est un camp de X Games.
Ah.
On a envoyé son vélo, son BMX là.
OK.
Et après 2 jours, on faisait des backflips.
Oh!
Mais c'est un camp de X-Games. C'est Woodward, tout le monde le savait, les athlètes de Monster, Red Bull, Rockstar, les jeunes qui tombent dans le skateboard, ils font de tout. C'est tous les sports extrêmes.
Wow.
On a envoyé notre plus vieux 2 ans là. Je veux dire, il s'est fait des amis, tabarnouche, qui sont des athlètes qui ont gagné des médailles aux X-Games, tout ça, mes affaires. Okay. Oh, oui.
Wow.
Mais pour vous dire, envoyez-les,
structurez-les
comme il faut dans un endroit que vous savez que c'est safe, c'est correct. Laissez-les aller, puis ils vont revenir, vous allez voir, avoir le plus beau sourire dans le visage. Fait que nous autres, notre transition, on n'a pas eu peur de foncer, laisser les enfants, ils sont faits des amis, ils sont organisés. Ils ont joué au hockey ici.
Oui.
Ils ont joué au hockey. Ils ont été à l'école de Johnny Murray.
Johnny Murray,
bien.
Oui, Québécois de Beauport,
qui a été
arbitre dans la Ligue nationale pendant 25 ans.
Exact. Fait que Johnny a fait des écoles ici. Quand mes enfants jouaient au hockey, j'ai hébergé, moi, 5-6 flots qui venaient chez nous dans le temps.
Des Québécois.
Des Québécois.
Qui venaient ici apprendre l'anglais chez Carl Sanson.
Fait que là, ils arrivaient avec... Ils tombaient sur nous autres. Puis les jeunes, ils capotaient. Puis moi, je suis chanceux que ma job... Quand il était là, je travaillais plus ou moins.
Okay.
Fait que j'étais comme off de la job. Fait que je m'occupais des jeunes, j'ai gâté tout ça. Puis les jeunes arrivaient. Puis à un moment donné, tout le monde venait venir chez nous les années d'après.
Ah, oui,
parce qu'ils se parlaient entre eux autres.
Ben, oui.
Fait que, non, mes enfants, ils ont adoré ça. L'école de hockey de Johnny Murray, ça, c'est quelque chose que vous voulez faire un échange, vos enfants grandir là-dedans. C'est une école extraordinaire, bien structurée.
Je ne sais pas s'il fait encore. Oui, il fait encore. Non, je sais qu'il fait encore l'école, mais je ne sais pas s'il fait encore sur le principe qu'il amène des Québécois dans un camp ici à Tampa, puis il amène des Américains dans un camp au Québec.
Au Québec, oui, il fait encore ça. Il fait des deux bars. Ouais. Puis qu'est-ce qui est le fun de Johnny, c'est que je sais que dans Radio Pirate, on a parlé le printemps, passé quand il a arbitré la finale de la Coupe Stanley, là, match 7. Là. Fait que faut y donner.
Oui.
Félicitations à Johnny là-dessus. Puis Johnny engage tous des coachs des affaires, des coachs dans la Ligue nationale. Là. Il doit faire 25 ans. Là. Fait que là, c'est toute la même gang qui travaille ensemble. Ouais. Fait qu'il engage le préparateur de l'équipe, admettons, des Hurricanes de la Caroline. Il y en a un autre qui travaille pour, admettons, Winnipeg ou Boston ou whatever. Ouais. Fait que lui, il structure sa gang de même pendant l'été. Puis il fait un bon camp. Puis il a beaucoup évolué là-dedans aussi. Ouais.
Je pense qu'il demeure maintenant ici à Fort Lauderdale avec son épouse. Puis,
il a déjà habité à Tampa.
Oui, longtemps à Tampa. Oui. Mais ici, à Fort Lauderdale, sauf erreur, sa conjointe, elle est une des nombreuses courtières ou courtiers immobiliers qu'il y a ici en Floride.
Québécois, Castor, il est en plein tout ça.
Exactement.
Si vous voulez avoir des contacts, ben, écrivez à
La Florida, le podcast. Exact. On va répondre. Juste pour en revenir, donc, tu t'as déjà parlé dans un podcast antérieur, parce que là, on parle de podcast, on a parlé des langues, l'immersion, tout ça. Puis... mentionné que tu as déjà parlé, c'est l'aspect gêne qui est plate pour quelqu'un qui veut apprendre l'anglais. Mais la meilleure chose à faire, c'est de prendre la portion gêne. Parce qu'on a un très, très bel accent, semble-t-il, les Québécois, les francophones, en anglais. On dit que c'est charmant. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais on dit que c'est charmant. Mais chose certaine, tu prends ton ego et tu prends ta gêne et tu fous ça dans le closet quand tu arrives à une place. Tu oublies ça parce que la majorité, je te disais tantôt, des gens qui parlent cette langue, je ne suis pas sûr, ils ont un accent dans toutes les langues.
Ben oui, un accent dans toutes
les
langues.
Alors, ce n'est pas gênant d'avoir un accent.
Absolument, absolument pas. Puis c'est ça que les jeunes n'ont pas cette gêne-là, que les adultes l'ont plus.
Ils l'ont plus
pour eux. C'est pour ça que quand vous arrivez, puis que le parent s'en fait plus, je reviens là-dessus, mais le parent s'en fait plus pour les enfants, vont-ils s'adopter, vont-ils faire ci? Parce qu'il y a il y a un groupe Facebook qui s'appelle « Les jeunes familles du Québec en Floride ».
OK.
Puis les gens se posent beaucoup de questions là-dedans et je le vois. Et souvent, « j'ai peur, mes enfants, tout ça, vont-ils s'adapter? » Des enfants, c'est une éponge. Mm. Si tu les amènes d'un bon environnement, vous allez voir, laissez-les aller, il n'y a aucun problème, ils vont tout avoir ça. Il y en a qui sont un peu plus timides, mais ils vont prendre un petit peu. Au lieu de s'adapter en un mois, deux mois, trois mois, puis ça prendra six mois. Mais ils vont réussir à passer cette barrière-là.
Exactement.
Puis ils vont réussir à performer là-dedans. Puis à un moment donné, vous allez voir un an, deux ans, trois ans. Ouais. En tout cas, moi, je ne connais pas quelqu'un, Martin, que si le parent n'est pas hélicoptère, OK, qui est fonceur. Commencez un Québécois qui vient ici, qui laisse beaucoup de choses en haut, puis qui décide de l'essayer un an, deux ans, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui est plus fonceur qu'un autre. Donc, vous devez le côté fearless un peu, vous devez le transmettre à vos enfants, puis donner des petits coups de pied, des petites tapes aux fesses, puis de les laisser s'adapter. Puis vous allez voir que des enfants, là, ça va s'adapter 100 fois plus vite que vous.
Mon frère Richard, je te l'ai expliqué, là, partir en vélo, yes, no toaster, partir en vélo, s'en venir en Floride, puis partir en vélo, puis s'en venir aller au Mexique, fait que ça tu deviens plus débrouillard. Mais moi, j'ai travaillé...
Il est revenu en un morceau, il n'est pas revenu sur une brochette.
Non. À cette heure, il fait la même distance avec sa fourgonnette familiale, avec les enfants en arrière, puis il dit, j'ai pas la patience pour le faire en auto.
Ouais.
Imagine. Mais juste dire, moi, j'ai travaillé dans le domaine du hockey avec Don Meehan et Bob Pernault agent certifié de l'Association des joueurs pendant quelques années. Puis dans le junior majeur, quand on avait un Québécois, mettons, de la ville de Québec qui ne maîtrise pas bien l'anglais, ce qu'on lui disait, c'est tiens-toi en arrière de l'autobus avec les Russes puis les gens pour qui c'est aussi une langue seconde.
Difficile, ouais.
Fait que la gêne, tu vas prendre ça, tu vas mettre ça dans la toilette de l'autobus. Là,
exact.
Puis tu vas jaser avec ces personnes-là.
Tu vas te rendre compte que tu n'es pas si pire que ça.
Ben, tu es pas mal meilleur en anglais que le Russe qui vient d'arriver en nord-américain.
C'est un bon point que tu mets là parce que je vous ai donné l'exemple tantôt de l'école de mes enfants. Donc, sur 24 élèves, il y en avait 18 qu'il n'y avait pas de nationalité américaine. Ils venaient de d'autres pays, tout ça. Mais c'est parce que les professeurs sont formés. Sont habitués d'avoir ça chaque année.
Ben oui.
Donc, ils savent qu'avec quel élève qu'ils doivent les aider un peu plus avec l'anglais, les examens et les affaires. Eux autres, leur but, quand l'enfant rentre dans n'importe quelle classe, on va prendre de l'élémentaire, c'est d'être sûr qu'ils ont réussi à ce que l'enfant réussisse à s'adapter avec les autres enfants dans la classe, qu'ils réussissent à maîtriser l'anglais, puis de faire ce transfert-là. Et je vous le dis, là, moi, ça a été phénoménal. C'est la différence entre les écoles du Québec et la différence entre les écoles ici. C'est que le personnel est adapté là-dessus. L'autre chose, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça. Les écoles en Floride sont cotées avec des lettres. A, 2A, 3A, il y a du BB puis du B. Du B, c'est pas bon.
Okay.
Tu n'envoies pas ton enfant à une école B, tu n'envoies pas ton enfant à une école BB non plus.
Il okay.
faut que ça soit minimum un A. Là, je parle d'écoles, la plupart des écoles publiques. Il y a des écoles privées, il y en a plein ici, mais ils ont un bon réseau, la Floride a un bon réseau d'écoles publiques avec des bons professeurs. Les professeurs ont un salaire de base et d'après, on va appeler ça l'examen du ministère pour les gens. On sait c'est quoi au Québec, l'examen oui. du ministère d'éducation, blablabla. Ici, oui. ils ont des examens aussi de l'État. Et les professeurs ont des bonus sur la performance des enfants au dernier examen.
Tu es en train de dire qu'on nivelle par le haut?
Toujours. C'est la mentalité de la Floride, la mentalité des États-Unis. En tout cas, ici, de la Floride, avec le leader Ron DeSantis en ce moment. Mais c'est la mentalité. Donc, le professeur a une motivation d'aider l'enfant qui traîne un peu plus dans la classe, qui a un peu plus de difficultés pour être sûr que son adaptation est bien faite puis que lui, il a un ajustement de salaire, il a son bonus à la fin de l'année.
Wow!
Mais... Moi, là, c'est... Tu sais, dans mon temps, quand j'allais à l'école au Québec, que tu passes pas, 90% des professeurs, ils disaient « Je m'en... bye-bye.
Ouais. »
Ici, c'est pas ça. Puis ils vont parler aux parents, puis ils vont dire c'est quoi, puis ils vont offrir du temps après. Pourquoi? Parce qu'une motivation personnelle, lui, qui passe, parce que la paye est plus là au bout de la ligne.
Ouais.
Ça, il y a pas beaucoup... Il y a du monde qui m'ont dit au début, « Voyons,
déjà
Carl.
Entendu parler.
Oui, voyons, Carl, qu'est-ce que tu me dis là? Ça se peut pas, puis tout ça. » Pas ça se peut pas, ça se peut.
Est-ce que je peux faire un parallèle avec ça?
Ben oui.
Dans les rangs collégiaux, quand tu joues au hockey, dans les rangs collégiaux au Québec, il existe un peu ce principe de nivellement par le haut, et je m'explique. Tu t'en vas, par exemple, au cégep de Rivière-du-Loup, tu joues pour l'équipe locale, ou tu t'en vas, peu importe, là, Saint-Laurent, et quand tu joues pour l'équipe locale, collégiale, t'es pas habillé si tu passes pas. Fait qu'imagine que les petits gars sont dans un autobus, puis... Ah, il joue contre Montréal en fin de semaine, grosse rivalité. Là.
Ouais.
Puis le capitaine, il passe pas en maths. J'ai-tu besoin de te dire que tu as 19-20 petits gars qui sont en arrière du capitaine pour faire en sorte qu'il nivelle par le haut? Parce que sinon, le capitaine n'est pas habillé et on risque de perdre la game en fin de semaine.
Ouais.
Fait que ça, on nivelle par le haut avec des résultats qui sont...
C'est excellent, ça. La vie est comme ça. La vie, il va avec la motivation. Ça s'appelle ça la théorie de la carotte.
Oui.
Ma petite carotte en avant, puis il faut que tu lui donnes motivation. Puis moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune.
Ouais.
Moi, il fallait que tu me dises, OK, je fais ça, c'est quoi que j'ai? Si je me donne un coup de pied au derrière, tout ça, bien, regarde, tu vas avoir ça. Ah, OK, c'est concret. Donc, je vais donner l'effort pour me rendre jusque-là si j'avais la difficulté.
Fait que là, on est arrivé à la langue avec tout ça. Puis au départ, on parlait de podcast.
Oui.
Est-ce que je peux expliquer au monde ce que c'est un podcast pour la plupart du monde qui ne connaissent pas ça?
Très simplement, parce que des fois, tu mets ça un peu... J'ai vu ton explication sur Facebook, sur notre site. J'ai fait aïe.
C'est trop compliqué.
Puis parles-tu en mandarin?
Non, mais regarde, je vais expliquer
ça. Il faut
ça.
Que ça soit simple, un podcast.
Je vais vous parler d'un politicien. Un politicien standard
aimait
avoir une clip à la télévision.
Oui.
Ça durait, mettons, 15 secondes, 20 secondes, ça punchait, puis ça avait du résultat. Le politicien a dit « J'aime mieux aller faire une entrevue à la radio de 4 ou 7 minutes parce que j'ai plus le temps d'élaborer dans l'entrevue radio par rapport à ce que j'avais ma clip de 15 secondes à la télé. »
Et en plus, ce clip-là à télé, c'est un clip qui était édité.
Ouais. Oui.
Donc, s'il parlait pendant 5 minutes, ben la télé prenait un 20 secondes, un 30 secondes, que des fois, ça faisait pas son affaire.
Mais parfois, ça faisait son affaire, puis il mettait l'intonation au bon endroit pour que ce soit cette clip-là qui joue le soir.
C'est parce qu'il parlait avec le gars du Liberal Media, puis il va dire, c'est cette clip-là que je veux que tu prennes.
Exact.
Un podcast, c'est du début jusqu'à la fin.
Ça, c'est le PR man. Mais je suis encore toujours dans le comparatif entre la radio de une entrevue de 4, 5, 6, 7 minutes versus la télévision où est-ce que tu as un clip de 15 secondes. Donc, les politiciens se sont mis à dire « Je veux faire plus de la radio que de la télévision pour avoir le temps d'expliquer les choses.
Oui. »
Aujourd'hui, 4 à 7 minutes dans une entrevue packagée à la radio, c'est pas suffisamment long pour passer ton idée quand tu as du bagou un peu.
Exact.
Donc, les podcasts sont rendus ce que
sont rendus les winners.
Sont rendus les winners parce que le podcast, là, c'est exactement... Mettons que toi, tu écoutes la radio présentement, puis tu écoutes une entrevue, puis tu dis « Crime, ils sont obligés d'aller à la pause publicitaire. » Sacre affaire.
Oui, puis c'est pas juste ça.
C'est intéressant, je voulais...
C'est pas juste ça. C'est que qu'est-ce qui est très frustrant pour la personne qui parle?
Oui.
Comment ça, on parle que c'est tout le temps facile de parler en avant de micro? Puis c'est pas tout le temps facile. Des fois, les gens pensent en avant d'un micro, ils pensent à ceux qui l'écoutent.
Ouais.
Donc, ils oublient des mots, ils oublient des sentences, ils oublient un paquet d'affaires, ils gèlent un peu. Donc, c'est pas aussi fluide que quand ils se parlent, quand il n'y a pas de micro, quand il n'y a rien, puis on se parle entre deux personnes.
Ah ouais.
Qu'est-ce qui est le fun d'un podcast, c'est que tu es capable d'élaborer, tu es capable de te faire une bonne idée sans personne parce que c'est une discussion de gaufi, de garage.
C'est vraiment une discussion.
De garage, en chum. On est trois, quatre, puis on jase, puis on laisse le temps de parler. Donc, tu es capable de découvrir plus la personne au lieu que ce soit un clip édité. Ouais. Souvent, les gens, il faut que je fasse attention à comment je vais le dire, mais les gens ont l'attitude de se faire une idée très rapidement d'une personne.
Oui.
Sans nécessairement la connaître personnellement. Connaît juste le point professionnel. « Oh, cette personne-là, c'est un trou de cul. » Et le monde, le réflexe. Ou comment se fait, tu le connais-tu? L'as-tu déjà rencontré? Dans quel contexte, une discussion avec? « Oh, je le vois à télé, là. » Puis c'est le cas de Donald Trump. Mm-hmm. L'image qui est peinturée du Québec des médias, c'est l'image d'un très mauvais garçon, pas bon. Il édite tout ce qu'il dit, puis ils veulent le faire passer pour un pas bon. Je prends Donald Trump comme ça, puis ça peut être un coach d'hockey, un coach de baseball, un coach de n'importe quoi. Dans n'importe quoi, tu peux faire passer un acteur facilement la plus mauvaise personne que pas. Puis dans la vraie vie, c'est la meilleure. Ou l'inverse.
Absolument.
Des fois, les médias font passer cette personne-là. « Elle est fine. Oh, regarde comment elle a de l'air fin ou elle a de l'air fine. » Tout ça. Puis dans la vraie vie, c'est une personne déplaisante. Mm-hmm. Mais quand tu écoutes un podcast de 30 minutes, 2 heures, 3 heures de temps, à un moment donné, là, la garde tombe, surtout dans un podcast. C'est dans le cas que tu as parlé pour ouvrir le podcast de Donald Trump qui l'a fait avec Joe Rogan. Mm-hmm. Pourquoi que ça tire fort? C'est que tu as un monsieur de 78 ans qui est le brand Trump. Oubliez la politique. Le Ben Trump, le monsieur 78 ans, habillé un habit, qui est assis sur un tabouret, sa chaise. Là, il était 3 heures de temps en avant de Joe Rogan à discuter de la pub, du beau temps puis de tout.
Ouais.
Le bonhomme, là, à 78 ans, il a toffé 3 heures.
Ouais.
Joe Rogan l'a dit, il ne s'est pas levé une fois pour aller aux toilettes.
Ah, ça, je ne savais pas.
Il ne s'est pas levé.
Mais tu sais qu'il a fait
attendre.
T'as
eu de la misère avec ça.
Il a fait attendre. Chris, oui. Hey, non, mais sérieux, là, semble-t-il qu'il a fait attendre 20 000 personnes dans un amphithéâtre.
Non, c'était après ça. C'était plus tard. C'était plus tard. C'est parce que plus tard dans la journée, il devait aller à quelque part et les gens, ils savaient que ça pouvait prendre le podcast une heure ou trois heures.
Ouais, c'est
son staff a demandé, il dit, combien de temps ça dure? Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de podcasts, Donald Trump. Ben, il dit avec Joe, il dit, normalement, sa moyenne, c'est 3 heures avec ses invités. Ben, il n'a jamais dit non. Il s'est jamais lamenté. Il n'a jamais rien dit. Puis il était à livre ouvert en avant de
Joe
Rogan.
Mais il n'est pas le seul, là.
Puis qu'est-ce que j'ai aimé? Moi, la première question, il a demandé. Puis Joe Rogan est un master là, pour interviewer et tout ça. Là. Il a demandé, « Hey, vous étiez un gars du public, là. Vous êtes un gars de brand, Donald Trump, travaille dans les hôtels, toutes ces affaires. Quand vous êtes arrivé à Maison-Blanche, là, vous avez gagné, là, OK, en 2016. Vous êtes arrivé à Maison-Blanche. C'est quoi que ça vous a fait? Comment vous avez trouvé l'intérieur de la Maison-Blanche, les pièces à Abraham Lincoln? »
C'est là qu'il a...
Il a ouvert le podcast avec ça, de dire tout de suite des informations qu'on ne sait pas. Il n'a pas dit, hey, « T'aimes-tu pas Kamala Harris? Pensez-vous que tu vas gagner les élections? »
Ouais, mais il ne cherchait pas une clip non plus. Là.
Non.
C'est pas chercher une clip, c'est pas podcast, ça. C'est ça.
Mais tout de suite, c'est venu une discussion de, « Oui, Joe Rogan, c'est un gars qui a 54, 55 ans, puis Donald Trump a 78, ça pourrait être son père. » Mais tout de suite, il l'a rendu à l'aise. Fait que c'est ça, un podcast. Un podcast, c'est que les barrières tombent, tu jases, tu oublies tout, et t'es, normalement, tu es authentique avec la personne qui t'écoute le plus possible. Puis si l'intervieweur n'est pas capable de faire baisser tes gardes, ben ça veut dire que c'est pas nécessairement un bon intervieweur.
Exactement. Okay? Mais c'est pas, moi, j'aime pas ça parler du mot entrevue et interview dans le cas d'un
c'est
podcast.
C'est pas une interview.
C'est une discussion.
C'est une discussion de chum.
Je te donne un exemple, là. Je ne veux pas parler du tramway à Québec ou du troisième lien, mais quand Geneviève Guilbeault est arrivée avec sa pile de documents, mis ça sur la table pour impressionner les journalistes, puis fait un point de presse pour aller chercher une clip, j'aurais aimé ça que Geneviève Guilbeault soit assis dans un podcast pendant une heure, deux heures, trois heures, et peut-être qu'on découvrirait quelqu'un de différent.
Bien, c'est sûr, mais c'est parce que les médias standards ne lui laissent pas la chance de faire ça. Et elle-même, faut pas oublier, là, elle-même... n'est pas habitué de tomber dans ce milieu-là pour laisser tomber ses gardes et parler librement.
Ouais.
Tu sais, à un moment donné, ça se peut qu'elle, elle a toujours le réflexe de parler un journaliste de radio, de journal ou de télé.
Ouais.
c'est tout le temps la même patente, c'est tout le monde le même frame-up, la même affaire. Mais ça passe avec moi, puis c'est moi qui le lead, admettons, Martin.
Oh, oui.
Puis admettons, je jase avec, puis je fais un podcast à 1h30 de temps. Moi, j'en sors des affaires de Geneviève Guilbeault.
OK.
C'est sûr, je sors des affaires de Geneviève Guilbeault. C'est sûr que ses gardes vont réussir à tomber, puis je vais tout faire pour la travailler, pour que ses gardes tombent, qu'on ait une vraie discussion nous autres sans la mettre dans le problème.
Mais
il va falloir, mais si les gens veulent la découvrir, c'est une vraie personne, il va falloir à un moment donné qu'elle se rouvre. Elle va dire, ben oui, c'est pas facile.
Mais elle va le faire facilement.
Je suis marié, j'ai des enfants, je suis divorcé, j'ai ça.
Exact.
Telle décision, vous comprendrez bien que c'est pour moi qui ai pris une décision finale. Je me suis fait peut-être tosser un peu sans mettre dans la baraque, j'ai fait ça. Telle affaire, oui, on l'a promis, mais dans le contexte de, mais les journalistes. Ouais. Les autres journalistes ont décidé de mettre ça dans tel contexte. Ça m'a mal fait paraître. Ça a été difficile. J'en ai pas dormi pendant une semaine. Tout ça. Fait que tu vas voir.
Ça, c'est human interest.
C'est ça. C'est un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'on essaie de faire avec les podcasts de la Floride.
Ouais,
ouais. On essaie d'être le plus authentique possible. Puis c'est le fun qu'au milieu de tous les podcasts saison 2, qu'on explique un petit peu c'est quoi le podcast sans être trop technique, mais que les gens comprennent c'est quoi la nouvelle formule pour communiquer avec les gens.
Exact.
Puis tu sais, il y a. C'est, je sais que c'est toi qui s'occupe de ça avec François, mais on reçoit beaucoup de questions.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est qu'on est près des gens. Tu ne peux pas écrire à télé, à TVA, j'aimerais poser une question à telle personne, mettons. Gino Chouinard, dans le temps qu'il travaillait, salut, bonjour. Gino Chouinard, on ne te répondra jamais. Là. Non, il est trop occupé, ta question ne se rendra pas à lui, tout ça, les affaires. Tandis que nous autres, c'est du direct.
Ouais.
Le podcast que Joe Rogan a fait avec Donald Trump, ça a été du direct avec les gens qui sont après votés en ce moment. Ou qu'ils ont voté.
Ça peut pas être
parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de votes par anticipation.
Ouais.
Donc, chaque jour est important
pour
les autres.
Les enveloppes ne sont pas ouvertes. Il faut le rappeler.
Oui, mais c'est
ça. Ce que je comprends, c'est que quand tu votes par anticipation, en tout cas, ceux qui votent à distance, en tout cas, c'est ouvert le jour même des élections.
Ouais, exact. Fait mais je veux dire, les gens ont quand même pris une décision puis ont quand même voté pour quelqu'un. Donc, ils parlent directement à ces gens-là. C'est ça qui est le fun d'un podcast. On va essayer de continuer ça le mieux qu'on peut avec le podcast de la Floride avec les moyens qu'on a.
Exact.
Vous rendre ça intéressant.
Tu vas-tu me parler de restaurant? Vas-tu me parler de l'Auto Amigo?
Non, pas de suite l'Auto Amigo. Les gens savent un peu l'Auto Amigo. J'en reparlerai un petit peu plus tard dans l'Auto Amigo.
Ouais.
Mais je veux revenir pour finir ce podcast-là, vu qu'on est un peu plus technique. Je sais que toi et François m'avez dit que la saison 1... on a eu beaucoup de gens qui ont cliqué sur le lien du le podcast sur le permis de conduire.
Je sais pas pourquoi, mais genre 371 000 visionnements du Reel sur ça. Il y a quelque chose qui a attiré le monde sur le permis de conduire.
C'est ça. Puis il y a des gens qui vont écouter la saison 2 qui n'ont pas écouté la saison 1. Donc,
absolument.
À l'occasion, il va falloir répéter certaines affaires avec des points techniques. Mon point était le suivant. C'est que quelqu'un qui vient régulièrement en Floride, OK? Toi, tu es le meilleur exemple. Ça veut dire que tu viens 2-3 fois par année, tu peux venir jusqu'à 4-5 mois par année, tout ça, tu t'en viens ici, tu as un permis du Québec, tu pars du Québec légalement, c'est légal d'avoir un permis au Québec de conduire ici, une location de voiture, tout ça, les affaires, tout ça. Sauf que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si tu réussis à avoir une adresse ici, qui est le cas pour toi ici, fais louer une maison, fais louer un paquet d'affaires. OK. Si tu es capable d'avoir une adresse à quelque part, c'est un bill de FPL, qui est électricité, un bill de cellulaire, on le sait bien, vous avez votre passeport, puis venez régulièrement en Floride. Pour une question de sécurité, identification, allez en ligne, allez prendre un rendez-vous au DMV, OK?
Bureau des véhicules.
Bureau des véhicules, c'est en Floride. Prenez un rendez-vous et appliquez pour... C'est super facile. C'est bien fait, c'est facile. Des fois, deux jours, tu as ton rendez-vous de suite. Et vous allez passer un examen théorique qui est 60 questions. Tu dois réussir 50 sur 60. Tu peux prendre 4 heures pour faire ton examen si tu veux. Tu peux le reprendre si tu ne le passes pas, il n'y a pas de problème. Et tu as le droit jusqu'à 10 erreurs sur 60 questions. Et si d'un fois une question, tu ne comprends pas la tournure. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez, mettons, un tel véhicule, vous avez le droit d'avoir un trailer de comment de dimension, comment de poids, etc. C'est des affaires qu'on ne sait pas par cœur.
Non.
C'est dans le livre. Next question. Tu as le droit de switcher à la question prochaine sans te faire donner une tape sur les doigts, ça veut dire sans te punir nécessairement. Okay. Donc, tu peux aller à d'autres questions.
Mais tu es obligé de revenir à cette question-là
non,
à la fin.
Absolument
non,
absolument
pas.
Absolument pas. Okay. Tu switches à une autre question. Donc, il peut avoir 80-90 questions d'un 60 qu'il y a, puis il faut que tu en passes 50. Des fois, si tu en as 2-3 en ligne qui est trop des affaires techniques, des affaires de poids, de véhicules lourds, de ci, de ça, next question.
Mais bien souvent, faire peur facile après. Au monde, là, c'est quoi le genre de question habituelle?
Mais ça même affaire, un permis de conduire, savoir quand tourner, que vous avez le droit, lumière rouge, lumière jaune, bon. Quoi la distance avec le véhicule en avant, A, B, C, D. Okay. Ça même affaire qu'au Québec. C'est okay. Exactement la même affaire. Moi, je l'ai fait, c'est super facile. Il y en a plein qui l'ont fait. Moi, ça, pour moi, c'est facile dans la vie.
Okay.
Donc, quand même, vous avez une, deux, trois erreurs. Soyez pas nerveux. Switch, si vous ne savez pas, faites-le.
Mais comment faut ça, moi, je n'ai pas passé ça? Je n'ai pas passé ça, moi.
Il faut quand même
que, mon permis de conduire
que vous réussissez à mettre... À chaque année, tu es obligé de repasser ton permis de conduire. C'était
pas un résident permanent. Moi, je l'ai eu pendant 5-6 ans,
le permis de conduire. Peut-être qu'il ne le demande pas dans le temps. Là, il l'oblige de prendre le permis. Okay. Donc, je reviens. Donc, regarde bien la procédure. Donc, t'appliques. Tu passes ton examen et tu demandes un permis temporaire. Je vous dis pourquoi temporaire.
C'est écrit dessus.
C'est aussi valide qu'un permis normal. Et si vous avez une moto, vous le dites aussi. Vous regardez mon permis du Québec, je peux conduire une moto aussi. La classe A, B, C, whatever. La madame, monsieur va te le rajouter, il n'y a pas de problème. C'est passé votre test théorique. Maintenant, pourquoi temporaire? Parce que c'est renouvelable à l'année. Tu ne peux pas avoir un permis 3 ans ou 4 ans, puis tu payes d'un coup, mettons, 80$, puis il est valide 3-4 ans. Vu que tu as un permis du Québec, et la raison pourquoi vous demandez temporaire, c'est que vous avez un autre permis ailleurs. Donc, elle ne vous le coupera pas, votre permis de l'extérieur.
Exact.
Tu dis, je veux un permis spécifiquement temporaire, parce que je veux garder mon droit du permis du Québec. Ah, OK. Parce qu'il est arrivé des gens qui l'ont fait.
Ah, moi aussi, je me suis vu.
Et il est arrivé des gens au DMV qui ont coupé leur permis aussi, parce qu'ils ne l'ont pas dit avant, puis ils ont donné un permis normal.
Ouais.
Je veux juste dire, j'applique pour un permis temporaire. Je veux garder mon droit du permis du Québec parce que je me promène entre le Québec et la Floride. Et quand je suis ici, je me fais arrêter par la police. Je veux que mon permis soit en anglais et qu'il est bien identifié. L'autre chose, un permis de conduire te donne comme droit ici. Te donne droit que si tu vas dans un restaurant ou dans un bar et il te demande à t'identifier. Puis là, les gens, ils disent, oh, comment se fait? J'ai 48 ans et me demande d'identifier tout ça. Non, ça n'a pas rapport avec vous, votre apparence, quoi que ce soit. Ouais. C'est une loi. Ça veut dire que si le restaurant ou le bar te vend de la boisson et sur toi, tu n'as pas de pièce d'identification qui prouve que tu as 21 ans et plus, il perd son permis de boisson.
Peu importe l'âge que tu as.
Peu importe
Prenez
l'âge.
Prenez pas ça comme un compliment.
Avoir 102 ans. Si le monsieur n'a pas une pièce d'identification, puis arrive quelqu'un de la ville, n'importe quoi, qui vérifie, si tout le monde dans le restaurant ou le bar a une pièce d'identification parce qu'il boit de la boisson, c'est rare que ça arrive. Mais ça arrive. Ouais. OK? Vous l'avez sur vous. Et il y a même des bars, des restaurants que si vous n'avez pas, ils vont refuser de vous servir de la boisson.
OK. Okay? C'est pas un compliment.
Non, non, c'est ça. C'est pas
un compliment. Parce que t'as l'air jeune qui te
demande. Non, c'est ça. Le monde dit oh, oui, pour qui me prenait? Coudonc, j'ai 32 ans. Pensais-tu que j'avais 18 ans ou 20 ans? Ça n'a aucun rapport avec ça.
Non.
C'est que s'il y a un inspecteur de la ville qui rentre, puis commence à inspecter que la police des gens, puis t'as pas ton permis de conduire sur toi, bien, c'est pas compliqué. Cette soirée-là, il ferme le restaurant ou il ferme le bar au complet. Puis moi, je l'ai déjà vu.
Il perd ses revenus au complet. T'as déjà vu ça?
J'ai déjà vu ça sur la Solas. J'ai déjà vu ça sur la Solas, pas loin de où c'est que ça brasse un peu, là, pas loin de la traque de chemin de fer. Là. Fait que c'est plus d'un bar qu'il y a un peu plus de jeunes, mais ça est arrivé.
Okay.
Donc, c'est la raison pourquoi que si vous avez un permis de conduire, que faites arrêter pour une infraction de la route, OK? Vous avez un permis de conduire de la Floride, tout de suite le policier, même si votre véhicule est plaqué du Québec. Tout de suite le policier va être plus fin avec vous que vous avez un permis du Québec en français marqué dessus qui ne comprend rien.
Ouais.
N'oubliez pas que les dates, la date d'anniversaire est inversée. Le mois et le jour est inversé.
Oui, exactement.
Québec par rapport ici. Donc, en partant, c'est pas la même chose. Des fois, ils peuvent vous identifier, puis il y a une autre personne avec une date inversée, mais son permis est suspendu ici. Il peut te suspendre ici. C'est arrivé à des amis, moi.
Ouais.
C'est arrivé à des amis. Marc Tremblay, mais il n'a pas juste un Marc Tremblay. Il n'a pas juste un chien qui s'appelle Fido. Puis ce Marc Tremblay-là, il a 8 ans, il n'a pas payé un ticket qu'il a eu en Floride, parce qu'il dit, moi, je me retourne au Québec, je ne paye pas mon ticket, je m'en crisse. Bon, mais lui, il est en ce moment, tout est informatique, lui, il est barré en Floride. Fait que le gars se fait arrêter sur le bord de la rue, puis sa date est inversée. C'est déjà arrivé. J'ai payé plus qu'une personne, c'est arrivé. Fait que si vous avez votre permis de conduire en bonne et due forme, il n'y a pas de problème. Si advenant le cas, l'année passe, vous ne revenez pas en Floride. Dans ton cas, toi. Mettons que tu reviens, ton permis vient échu, mais tu n'étais pas en Floride pour aller le renouveler.
Okay.
Si tu es un mois avant, un mois et demi avant, tu peux venir puis le renouveler tout de suite parce que tu sais que tu ne seras pas en Floride. Si tu le laisses à échéance, okay, ça peut arriver à échéance, là. C'est que tu vas vouloir surfacer ton test théorique.
Okay.
C'est la seule affaire. Tu vas avoir un permis, mais il faut que tu refasses ton test théorique.
Okay.
C'est la seule patente.
Okay.
Fait que c'est pas, je vous le dis, là, c'est une sécurité pour les gens qui viennent régulièrement de s'identifier qu'une pièce qui vient de l'État. Ça, les policiers, tout de suite, sont plus relax.
Ouais.
Quelqu'un qui a fait une infraction de la route ou une niaiserie, qu'une plaque du Québec et qu'un permis du Québec, je suis obligé de vous dire qu'ils peuvent être plus rough avec vous autres.
Ouais.
Parce qu'ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Je ne suis pas policier. Je vous laisse deviner. Vous êtes assez grand à me deviner. Okay? Donc, pour eux autres, en plus qu'il a arrêté 3-4 personnes, il y a eu des affaires dans la soirée. Là, il en arrive à un autre. Ah, il est mal identifié. Fait que le gars, c'est un humain. Il n'est pas de bonne humeur cette journée-là. Ouais. Ils peuvent prendre en grippe, peuvent donner un peu plus de merde. Tu n'as pas une pièce d'identification ici. Chaisis ton char, chaisis tes affaires. Pauvre bonsoir, mange la merde, va-t'en. Je vous le dis, c'est rough de même. Là.
Okay? Mais ça arrive pas souvent.
Ça m'est arrivé, moi, personnellement.
Ah, ouais?
Oui, monsieur.
Okay.
Voilà, très longtemps, ça m'est arrivé. Je vous parle d'expérience personnelle, puis c'est arrivé à d'autres mondes que je connais.
Mais tu sais, le policier, dans sa journée, il n'a pas fait juste ça, distribuer l'étiquette.
Non, non, non.
Il en a vu des roughs. Tu sais, moi, mon frère,
mais
il me dit
ça,
à un moment donné,
que
tu marches, quand tu marches avec un policier, là,
oui.
un à côté de l'autre, là,
oui.
Ralentis pas pour arriver en arrière, à droite de lui, près de son arme. Parce que lui, il ne pose pas de questions éthiques. Et après ça, il pose des questions. Fait que faut que toujours tu marches avec, être sympathique.
Non,
monsieur.
Puis ils sont fins, puis ils vous saluent ici. Puis n'oubliez pas, protect and serve. Ils sont ici pour te servir et te protéger.
Ouais.
Bonjour, mais ça va. Le policier va toujours regarder dans les yeux. Bonjour, mais ça va bien, là, les affaires. C'est pour ça que je vous dis, un permis de conduire peut vous sauver beaucoup de problèmes. L'autre chose, tu loues un auto.
Ouais.
Tu loues un auto.
Ben oui.
Si tu as un permis de conduire de la Floride, que tu ailles chez Hertz, chez Avis, chez Enterprise, tu donnes ton permis de conduire de la Floride, c'est facile de
exact.
Louer.
Oui, un auto, puis plein de privilèges que tu as parce que tu deviens quasiment un local.
Exactement ça. Ouais. Donc, c'est plus facile pour louer des véhicules. Il y a certaines compagnies que d'un fois, des employés vont refuser de vous louer un véhicule si ce n'est pas un permis de la Floride. J'ai déjà vu ça aussi.
OK.
OK? Ça dépend toujours de la personne qui est en avant. Même si, oui, ils devraient tous louer, vous avez été sur Expedia, comme j'ai déjà expliqué, vous avez mis là une chose. Quand tu arrives au desk, il y a une personne qui n'est pas aussi bien, qui n'est pas aussi qualifiée que les autres, pour vous dire, ah, vous n'avez pas un permis de la Floride, je ne loue pas de l'auto.
Mm.
Puis là, tu es pogné à l'aéroport, les deux mains en terre. Puis là, tu dis, je vais appeler une autre compagnie. Puis là, il faut que tu ailles à l'autre compagnie n'a plus de char.
Ouais.
Tu sais, c'est pour éviter ces problèmes-là. C'est
un
ça.
Une affaire que je peux donner comme conseil également, c'est quand vous allez au bureau des véhicules ici, la SAG d'ici, là, puis qu'il y a un gros line-up à l'extérieur. Le DMV. Quand tu vas là, puis que, mettons, un quadrilatère complet où tu vois une ligne, je ne sais pas pourquoi, comment l'expliquer, mais les lignes vont vite. Très, très, très vite. Alors, tu as l'impression de
ouais,
non,
si
je vais revenir
prends...
demain matin. Non, non,
mais...
ça va toujours être la ligne comme ça, mais la ligne va très vite.
Bien, c'est ça, Martin. C'est que, puis, je vous le dis, c'est partout, là. Système de prendre de rendez-vous, ça va très bien.
OK.
Moi, là, tout le monde que j'ai été, tout ça, c'était un rendez-vous à 2 heures, tu vas passer en dedans de 10-15 minutes maximum. Tu n'attendras pas là 1 heure, 2 heures de temps.
Exactement.
Jamais, 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 jamais. Normalement, l'opération que je vous ai dit, là, de faire le test, avoir permis tout ça, c'est 45 minutes à 1 heure
okay.
pour avoir votre permis. Pour renouveler, 10 minutes.
Ah oui?
Ouais. Okay. Si tu reviens, tu as déjà un permis qui est émis, tu vas le renouveler. Tu prends ton rendez-vous, c'est marqué pour renouveler ton permis de conduire, ça prend 10 minutes. Et tu regardes les 3 pièces d'identification, ton passeport, 2 preuves de résidence ou d'adresse que tu as ici, qui est à ton nom, dont un cellulaire ou un compte de FPL, puis ces choses-là. Tu lui montres ça, il renouvelle. Okay. Il a déjà ta photo dans son système parce que tu as déjà un permis de conduire. Il te reprend une photo encore, il te reprend une nouvelle photo. Puis, c'est tout de suite à l'émission, puis tu vois, tu payes que ton 48$, puis tu vois, ton permis de conduire en dedans de 10-15 minutes avec ta photo, c'est déjà fait. Tu pars avec ta carte, pouf, t'es reparti. T'es clair après une autre année. Le processus va bien. Fait qu'encore une fois, ceux qui viennent régulièrement en Floride, et même aux États-Unis.
En général,
vous traversez souvent les lignes, je vous conseille, l'état que vous allez le plus, d'aller chercher un permis de conduire, surtout en Floride.
Vous devenez un « one of the boys ».
Oui.
Ouais.
C'est plus facile pour vous. Plus facile de vous identifier, plus facile pour les policiers, plus facile pour tout. Life is better.
Excellent.
Ça, c'est sûr et certain.
Vous avez des questions, gênez-vous pas pour aller sur la page Facebook de les Snowbirds c'est-à-dire la Florida, le podcast, mais aussi les Snowbirds du Québec en Floride puis les Snowbirds québécois en Floride. C'est 2 portails de référencement de Snowbirds où si vous avez des questions, il y a des gens qui vous répondent en temps réel. Je ne veux pas dire que les réponses sont bonne et officielle, bien, vous pouvez quand même poser des questions là. Vous avez aussi, si ça vous tente, de venir... demeurer en Floride et de faire américaniser, entre guillemets, votre véhicule. Michel Filiatro est un de ceux qui font justement l'adaptation des véhicules. Ils s'en vont au bureau des véhicules avec vous, puis ils font toute la démarche. Faites la recherche. Michel Filiatro est un de ceux qui fait ça. Je ne fais pas une pub pour lui, mais simplement vous dire que c'est
possible. Il y en a plusieurs. Et le processus se fait très bien de prendre un véhicule canadien.
Ouais.
Et de le mettre en véhicule américain. C'est un processus à faire, ça prend un broker, mais ça se fait très bien. C'est pas venir ici de façon temporaire, un mois, deux mois, trois mois.
Non, c'est
de
faire américaniser son auto.
Exactement ça. Exactement. C'est le très bon terme, Martin. Fait que je pense que c'est pas mal.
Voilà, c'est tout pour l'épisode numéro. Oui, l'épisode numéro 7 de la saison 2 de la Floride.
Permis de conduire.
Permis de conduire.
Podcast.
Exact. Exact. Alors, c'est un plaisir. Merci à François Forget de Caméléon Productions. Merci à Carl Sanson. Je m'appelle Martin Clavé-Bédard et on s'en reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye.
La semaine prochaine, dans ton podcast préféré.
Côte ouest est toujours plus froide que la côte est.
Ah, okay.
Donc,
okay.
Naples, Fort Lauderdale, c'est en même hauteur. On s'entend, ça sont les 15 qui traversent. Bien, Naples peut avoir 6, 7, 8 degrés le matin et pendant la journée plus froide que Fort Lauderdale. Savais-tu qu'il y avait la fontaine de jouvence, la fontaine de jeunesse? Les Espagnols sont arrivés à Saint-Augustin, mais ils ont rencontré les natives locales qui étaient ici. Donc, c'était la première fois que ça se rencontrait le continent européen avec le continent nord-américain aux États-Unis. Et là, la fontaine de jouvence, vous pouvez y aller, vous pouvez la visiter. Tu sais que les parcs thématiques, si tu prouves que tu as une résidence, c'est un meilleur prix.
La Florida 2.0.
Snowbird 2.0.
100% Florida, 100% Snowbird.
Ton podcast floridien.